Camille Casal. Là. Et puis après, on... Donc, je sais pas, Camille, tu es à côté de Charlène ou Charlène Zéa dans le public, vous faites comme vous voulez. Et puis après, on posera les questions. Là, je t'en... Voilà. Donc, Camille Casal.
Non, je t'aime, vas-y, vas-y. Pense.
Chercheuse en art et sociologue également, spécialiste de la santé en art. Donc, merci beaucoup, Camille, à l'aide de proposer. Une communication qui porte sur la formation de la danseuse et du danseur au crime de la santé optimisée, toujours dans cette optique donc, de la formation des corps tout au long de la carrière.
Bon, bonjour à tous. Ça marche ?
Oui.
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices. Enfin, je suis vraiment ravie d'être ici. Dans le cadre de ces journées, je vais vous proposer ici une intervention un peu moins canonique même que mes interventions habituelles, dans le but de favoriser nos échanges sur cette thématique du coup de la santé et de la formation, comment outiller les corps aussi pour leur permettre de faire leur métier en bonne santé. Donc dans un premier temps, je vais vous partager à partir de la littérature, bon, aussi mes travaux de recherche, le contexte général, ce monde social finalement de la danse. Et dans la seconde partie donc, de ma présentation, je vais revenir sur mes résultats de recherche. Donc, mes recherches doctorales portaient sur la santé dans la formation du danseur et la danseuse professionnelle. Donc, c'est dans ces écoles, on va dire, qui forment au DNSP, donc qui accueillent des élèves entre 11 ans et jusqu'à 21 ans quand il y a des jeunes balais. Et du coup, ma thèse interrogeait la notion de santé qui émerge dans ce monde professionnel en pleine mutation, vu qu'on voit maintenant l'apparition de structures santé et dans l'accompagnement médical rationnel. Et je suis désolée, j'ai très très peu de voix en fait, j'étais à peine il y a quelques jours, mais on va y arriver. Pour commencer, je vais vous parler donc, de la santé dans le monde de la danse et de certaines croyances et représentations qui sont identifiées comme peut-être délétères pour cette santé. Donc, concernant la santé des danseurs et des danseuses, ce sont les blessures physiques qui sont les mieux documentées. Les chiffres varient vraiment selon les définitions et la douleur. Le taux moyen, voilà, pour savoir, serait de 1,3 lésions pour 1000 heures de pratique dans une école de danse. Ça correspond à un peu plus d'une année de formation. Et en fait, la danse, tout comme le cirque d'ailleurs, est considérée comme finalement une pratique à haut risque de blessures. Après, ce sont essentiellement des blessures liées donc à la surutilisation, au surentraînement, et qui sont très très bien documentées. Le problème, notamment quand elles arrivent jeunes dans la formation, c'est que ça crée des blessures chroniques et un risque aussi de quitter la pratique de manière extrêmement prématurée. Quelles sont alors les logiques à l'œuvre ? Ah oui, et aussi... Donc, ce qui est très bien documenté, c'est donc les blessures physiques qui sont vraiment bien connues. Et les études estiment qu'il y a une très grande minoration de ce qu'on pourrait appeler les blessures mentales. En fait, que la santé mentale est encore un impensé, voilà, qu'on manque de données, avec aussi une minoration de la douleur, sur laquelle je reviens du coup de suite. Parce que voilà, donc les blessures sont très bien documentées, mais les danseurs se baissent toujours. Nous, ma thèse aussi. Du coup, quelles sont les logiques sociales à l'œuvre ? Donc là, il y a eu des travaux pionniers, notamment à partir des années 2000, qui mettent en avant que la culture institutionnelle et sociale donc du monde de la danse sont produire des valeurs et des conditions d'entraînement qui favorisent l'atteinte à l'intégrité physique et morale des danseurs et des danseuses, renforcées par le sentiment de vocation où ces contraintes sur les corps sont légitimés, voire valorisés, parce que ça signifie voilà, qu'on est danseur parce qu'on dépasse cette douleur. Donc il y a d'un côté tout ce qui est conditions structurelles du monde de la danse, où c'est un métier très très concurrentiel, il y a de plus en plus de danseurs dans le marché de l'emploi, et les contrats, il y a une diminution globale par contre des contrats et des durées de contrats. Il y a aussi toute la question des conditions d'ouverture des droits au régime de l'intermittence, et il y a une nécessité quelque part d'en faire plus, de danser plus, donc avec un manque total de temps de récupération. Il y a aussi le problème de l'irrégularité de l'entraînement, notamment pour les danseurs intermittents, où voilà, ils n'ont pas de structure. Donc il y a dans certains lieux comme le CND, l'entraînement régulier du danseur, mais voilà, le fait d'avoir cette irrégularité est vectrice de blessures lors de la reprise et aussi d'être moins bon, on va dire, lors des auditions. Il y a aussi une culture du silence avec le fait, voilà, quand on a mal, on ne va pas en parler. Plus c'est une ignoration de la douleur avec l'idée que si on a un contrat et que on sent qu'on ne peut pas faire certains mouvements, le chorégraphe ne va pas forcément nous employer après. Et il y a d'autres logiques déjà aussi dans cette minoration de la douleur, c'est celle du dépassement de la douleur. Donc le monde de la danse aussi construit une tendance au dépassement de la douleur. Donc il y a cette idée que la douleur, c'est aussi une construction sociale. Ça n'enlève pas évidemment la réalité, la douleur de chacun, mais que chaque milieu social va construire un seuil de tolérance plus ou moins élevé à la douleur. Ça dépend des représentations du milieu, d'où l'idée d'aller observer dans les écoles de danse, parce que c'est là où se construit cette reconnaissance de la douleur. Et cet apprentissage est fondamental pour outiller les danseurs, parce que ça va être en reconnaissant la douleur comme un signal d'alarme que le danseur va pouvoir aller voir peut-être un professionnel de santé et donc éviter les blessures. Ça, on va y revenir dans un second temps. Une autre valeur qui peut être perçue comme en conflit avec la santé des danseurs, on va dire, c'est l'éthique de travail intensif. Le monde de la danse, on valorise l'éthique du travail intensif, où le discours incite sur cette sensibilité, sur l'abnégation que requierait la danse. Et il y a une idée que si un danseur et une danseuse n'arrivent pas à se tenir ce rythme, ça veut dire qu'il n'est pas fait pour la danse. Donc ça s'appelle la rhétorique de la singularité et du talent. Et le problème est que dans cet univers social, ces contraintes sont encore même acceptées et vécues comme normales et supportables, car inhérente au métier. Et ça, c'est une première représentation qui est très, très forte. Et les enfants, quand ils arrivent dans les écoles de danse, ils croient vraiment le fait qu'ils ont mal. C'est pas grave, c'est ça le métier. Et par exemple, donc, c'est un extrait d'une BD qui est sortie en 2020, qui s'appelle Étoile. Étoile, le volume 1 en piste. Donc, c'est écrit, entre autres, par Marie-Claude Pietragala. Et donc, il y a une jeune danseuse qui dit qu'elle a beaucoup hésité, enfin, une ancienne danseuse étoile, pardon, qui a beaucoup hésité à laisser ses filles suivre ses traces, dit « Ah bon, mais pourquoi ? C'est un métier dur qui demande beaucoup de sacrifices. Le corps souffre beaucoup et il n'y a pas de place pour la pitié. Ah, et vous avez arrêté à cause de cette dureté. Oh non, j'ai continué. C'est tellement magique quand on se retrouve sur scène. » Et le problème, vous voyez, c'est quand les élèves arrivent, du coup, dans l'école de danse, ils ont déjà des valeurs de dépassement. Ou même avec l'apparition d'un centre santé sur lequel on va revenir, c'est très compliqué d'aller à l'encontre de représentations générales que les enfants ont peut-être appris dès leur enfance, justement dès leur plus jeune âge. Pour revenir sur les écoles de danse, donc l'institution et ses écoles jouent ainsi un rôle prépondérant dans le travail de conversion et d'incorporation des normes, où elles peuvent insister sur ce discours de douleur, de dépassement, de l'or comme signe positif, où elles peuvent essayer de minorer quelque part ces représentations, mais se pose le problème des croyances en fait, du monde de la danse, avec une donnée majeure qui est celle de la vocation. La vocation, c'est la sensation d'être fait pour ça, c'est ce qui va donner sens à l'engagement, c'est ce qui rationalise aussi les discours sur la passion, mais il peut avoir l'idée que comme je suis fait pour ça, je vais dépasser cette douleur parce que c'est ma vie et la douleur peut alors être vue comme un signe positif. Pour citer Pierre-Emmanuel Sorigné, l'investissement dans le présent, le désintéressement sont les preuves du caractère incoercible de la vocation. La souffrance du corps, au même titre que la pauvreté, peut apparaître comme un stigmate électif. Comment outiller les corps dans un tel contexte, finalement ? Il y a aussi une autre donnée à prendre en compte sur cette question de l'outillage et l'outillage face à de nouvelles propositions artistiques, c'est qu'il y a aussi eu une modification du vocabulaire dans le monde de la danse et que les danseurs doivent être capables de passer maintenant très rapidement d'un vocabulaire à un autre, d'une esthétique à une autre. Et Susan Faustner, donc une chercheuse américaine, parle de « hired body », donc « corps loué » et « corps alloué », où c'est ces corps forts et flexibles qui doivent finalement très rapidement répondre à toutes les demandes chorégraphiques. Le problème est que cette forme de malléabilité finalement du corps des danseurs augmente le risque des blessures. Donc il y a ce lien entre polyvalence et surutilisation et comment on outille face à la polyvalence, donc on va revenir dessus. Et comment, avec une telle demande de modification de l'esthétique, on peut aussi former à l'excellence. Ouais, toutes ces questions dont on pourra, sur lesquelles on pourra revenir ensemble. Aussi, la technique est devenue de plus en plus virtuose, poussant les danseurs aux limites physiologiques de leur corps. Et il y a aussi la question de la prégnance de la norme corporelle, sur laquelle je vais pas forcément revenir maintenant, mais comme j'ai parlé de la formation, faut aussi prendre en compte que dans la formation du danseur, il y a l'enjeu de la puberté, que ces écoles de danse, ça se déroule vraiment pendant cette période cruciale du développement de la puberté. La norme corporelle favorise une réification du corps où le danseur peut aussi passer à côté de toute la question du sens du mouvement, de sentir le mouvement pour essayer de se conformer à une norme, non seulement dans sa technique, mais aussi dans sa physionomie, finalement. Ce qui peut, dans les études, en tout cas, ça augmente les risques sur la santé. Ça fait une mésestime de soi, aussi une dysphorie, une forme de dysphorie, et également peut-être une augmentation, une accentuation, en tout cas, des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte dans cette question de l'outillage de cette période si cruciale, qui est en même temps la période où il y a le plus d'intensification des exigences, intensification des exigences qui aboutit à une réification du corps, qui augmente cette forme de césure entre la sensation et la technique. Et enfin, le dernier point aussi, c'est la limitation des sphères de socialisation. C'est-à-dire que dans les écoles de danse, finalement, l'école, il y a vraiment l'école de danse, les cours scolaires, l'internat, et ça fait que les élèves ne voient pas forcément des personnes issues d'un autre milieu. Donc, il y aurait d'autres représentations pour moins être peut-être dans ces logiques vocationnelles. Et par rapport à la formation, donc dans la littérature scientifique, donc sur tous les points que je viens d'énumérer, par exemple, pour la chercheuse Jill Green, l'esthétique du corps dansant, virtuose et longiligne, se transmet au sein des écoles de danse où cette forme idéale représente le système de croyance du professeur et présume l'idée sur ce que le corps devrait être. Donc il y a vraiment cet enjeu pour outiller les danseurs de réfléchir à la fois à comment on accompagne par peut-être le corps médical à la pratique, mais aussi qu'est-ce qui est transmis dans le studio aux élèves. Il y a l'idée de réexaminer finalement comment les pratiques traditionnelles de danse et l'esthétique dominante exercent toujours une puissance et un contrôle sur les corps d'aujourd'hui, mais qui ne correspond plus à la technique en fait d'aujourd'hui et à notre contemporanéité. Pardon. Excusez-moi. Et enfin, par exemple, pour signer donc une chercheuse qui s'appelle Ellen Laws, en introduction donc d'une enquête qui s'appelle Fit to Dance, qui était en 2005, ça a été une très très grande enquête au Royaume-Uni sur justement la santé des danseurs. Elle écrit les professeurs et les écoles font face maintenant au plus grand challenge, qui n'est pas seulement de former leurs étudiants, mais aussi de réévaluer les pratiques passées en questionnant chaque aspect au regard de cette nouvelle connaissance. Donc maintenant, après ce panorama, je vous propose de rentrer au sein d'une école de formation. Donc c'est ce que j'ai fait, moi en tout cas, dans le cadre de ma thèse. Donc il faut savoir, jusqu'à il y a moins d'une dizaine d'années, dans les écoles de danse et même dans la plupart des compagnies, dont on pourra encore parler, il n'y avait pas de structure santé dédiée. C'était vraiment pendant très longtemps un impensé, même dans le monde de la danse, où le danseur faisait ce qu'il faisait à côté, mais ça n'existait pas dans les structures. Et donc moi, je suis allée observer, donc dans le cadre de ma thèse, pour faire une enquête ethnographique, je suis allée observer 4 mois donc, dans une école où il y avait une telle structure donc, santé, avec une personne là toute la semaine pour accompagner les danseurs. C'était une école pionnière, c'est la première à avoir fait ça. Et je me suis demandé quelle représentation cela change-t-il, le fait d'avoir une structure dédiée et un discours de santé soutenu par la direction. Et quel outillage supplémentaire auraient ainsi les danseurs pour répondre aux exigences sur leur corps tout en maintenant leur santé. Donc le but de l'école, c'est de produire des corps performants dans un objectif pédagogique d'excellence. L'ambition, c'est de former des futurs danseurs et danseuses, ce qui implique que ces danseurs et danseuses puissent se conformer aux normes dominantes de cet espace social spécifique. Dans ce but, l'espace santé participe grandement à outiller les danseurs, en plus de permettre une très grande disponibilité de leur corps. Donc, mon enquête, pour vous mettre directement les résultats, pour favoriser après nos échanges, révèle que la santé, du coup, dans ces écoles de danse, c'est la rencontre entre trois pôles de co-construction de représentation. Ces trois pôles, c'est justement le pôle de l'accompagnement musical du studio santé, le pôle des croyances transmises par les professeurs en studio et qui est le pôle finalement le plus difficile à modifier, et c'est là où se joue finalement la perpétuation sûrement de certaines valeurs, et le pôle des élèves, en fait, de ceux qu'ils ont déjà incorporés en arrivant à l'école de danse et de ceux qui continuent à s'auto-alimenter quelque part ou à transformer. On voit aussi que ces représentations concernant la santé se modulent selon les temporalités de l'exercice de l'activité, les classes d'âge, les profils sociaux des élèves qui se modifient au fur et à mesure de la formation. Et il y a une différence assez nette entre la première partie de la formation, ce qui est l'équivalent du collège, si vous voulez, et la seconde partie à partir de la seconde et première, c'est-à-dire quand l'élève est bientôt professionnel. Pour commencer donc par la sphère pédagogique, on assiste qu'avec la présence donc d'une personne en fait là dédiée qui essaie de faire aussi un très gros travail de sensibilisation auprès des professeurs, on voit bien une modification de la pédagogie en studio. Alors il faut savoir que les professeurs au début avaient un regard assez sévère et ne comprenaient pas ce que cette personne allait apporter. Donc il y a une forme d'acculturation et au bout d'un moment il y a eu un intérêt et des échanges. Qui fait qu'en cycle initial, on va vraiment énormément de considérations anatomiques, une insistance sur le geste, justement, le sens du geste, la perception. Les professeurs ont tendance également à dire aux élèves d'aller voir, du coup, la coordinatrice santé et eux-mêmes d'aller poser des questions. On voit aussi que cela dépend beaucoup des professeurs, finalement, et que les modèles pédagogiques restent hétérogènes selon leur propre formation et leur propre croyance. Au cycle initial, on voit tout un discours de prévention, mais ce discours disparaît vraiment à l'approche du spectacle et des examens, où là, le but, bah, c'est de danser, on ne parle absolument plus de sens, et il y a davantage une réification du corps. Et pour les élèves du cycle supérieur, par contre, là, la santé redevient, on va dire, à l'extérieur du studio, avec le pôle santé, on va dire, mais il y a plus ce lien à qu'est-ce qui se passe dans le studio. Donc c'est vrai, le directeur me parlait de la boîte noire du studio, au sens où c'est difficile d'avoir accès à une modification des pratiques et des croyances dans le studio de danse, mais qui est aussi lié aux contraintes finalement structurelles du monde de la danse, où il y a l'idée qu'ils doivent réussir l'audition, qu'ils doivent arriver à se conformer à ce qu'on attend d'eux. L'usage que les élèves font du centre santé témoigne aussi de cette construction sociale de la santé différenciée. On voit que dans le cycle initial, il y a vraiment un usage préventif de cette structure santé, au sens où, par exemple, il y a toute une recherche sur la potentialité de l'en dehors des danseurs pour essayer de les emmener à répondre aux propositions chorégraphiques sans se blesser, sans forcer justement. Les apprendre à trouver un chemin du corps spécifique basé sur la sensation en leur expliquant qu'ils ont plusieurs années pour atteindre tel ou tel geste. On voit beaucoup d'utilisation, par exemple, du pilates, du gyrotonique, mais beaucoup de ces élèves, en fait, n'atteignent pas le cycle supérieur, et on voit deux choses. Déjà, les élèves qui reviennent, qui arrivent le plus loin dans la formation, et qui arrivent au fur et à mesure à l'école, sont de plus en plus dans des logiques de dépassement, et aussi ont de moins en moins le temps pour la prévention, parce que les exigences augmentent. Et que du coup, en seconde partie de l'école, les élèves se réfèrent à ce centre santé, non plus pour la prévention ou pour essayer d'améliorer leur technique, on va dire, dans une durée, mais juste pour ne pas avoir trop mal et continuer à danser pour faire face aux exigences. Donc on voit que la présence d'une structure santé est alors un moyen pour permettre une prise en charge de ces danseurs afin d'éviter des aggravations de la douleur et limiter les blessures, mais que ce centre santé finalement consacre aussi les normes de la danse en permettant de les soutenir, mais en passant à côté de ces logiques de prévention. Et dans le même temps, les conditions structurelles, comme je dis, ne permettent pas cela. Mais ce qui est par contre très intéressant par rapport à tout ce que je vous ai dit sur ces valeurs de dépassement, d'être fait pour ça, d'avoir mal, etc., c'est que ce qui m'a étonné moi personnellement, les élèves, la majorité des élèves font état que la douleur n'est pas normale. C'est-à-dire qu'ils savent maintenant reconnaître la douleur, ils savent qu'ils ont mal, mais disent « mais comment je fais en fait ?» Dis-moi, c'est vrai, le professeur m'a dit « bah fais attention ». Il me sauve que je me lève à 7h du matin, j'ai les cours scolaires, j'ai les cours de danse, je n'ai absolument pas de temps de récupération. Donc il y a quand même une grosse modification qui est aussi permise par le discours des structures santé et tout un discours plus général sur la santé qui est la fin, quelque part, d'une culture du danseur héroïque où les blessures vont être dépassées et sont le signe d'un bon danseur. Mais les conditions structurelles que critiquent les danseurs, font vraiment un vrai, gros regard critique, ne leur permettent pas réellement de faire de la prévention. Et en effet, donc pour conclure, pour finir, je vais encore parler de deux choses. Donc, qu'on voit que ce qu'apporte l'accompagnement médical, au final, c'est d'éviter au maximum les blessures et la souffrance, que ça permet de rendre inacceptable, justement, la douleur, de déconstruire un certain rapport à la douleur. Toutefois, il reste la question de qu'est-ce qui est mis en œuvre de ces conditions structurelles et de la bonne heure du studio. Pour la bonne heure du studio, il y a aussi toute cette question de repenser la pédagogie et auquel cas, là, j'en ai une pensée pour toute cette idée née des années 60-70 en France liée à la SND où il y avait toujours ces questions du renouveau pédagogique. Par exemple, Wilfried Piollet livré sous constat. Il est bien étonnant que cette question d'un corps disponible aux divers vocabulaires capables de se transformer sans se casser, ce qui arrive bien trop souvent actuellement, n'ait pas amené les uns ou les autres à imaginer des exercices de préparation pour les danseurs. Donc on revient dans le pôle pédagogique, donc qu'est-ce qu'on fait au sein du studio? Et une autre question par rapport à celle des conditions structurelles, ça serait aussi les lieux où se produisent l'exaltation de ces dernières, l'exaltation de cette danse, qui est en fait une réification du corps en sens. Et je pense par exemple au prix de Lausanne qui a lieu actuellement, donc qui a été aussi un de mes terrains de recherche, où il y a, ça fait de nombreuses années qu'ils parlent de santé, sauf que quand on va réellement au prix de Lausanne, qu'on interroge les danseurs, qu'on observe, on sent qu'il y a une incompatibilité totale entre la santé et les conditions de production, même de l'excellence quelque part, et que la présence même d'un médecin presque entérine ces valeurs. Et par exemple aussi dans le règlement du prix de Lausanne, il y a bien écrit que le danseur doit être mince, par exemple, et ça, c'est non questionné. Voilà, et du coup, je m'arrête ici. Voilà, et pour conclure quand même une phrase de question, la question sera alors celle de la déconstruction d'un rapport presque de responsabilité individuelle à la santé, pour une prise en compte plus politique et globale, à la fois du corps individuel du danseur, mais aussi du corps social de ce monde de la danse. Merci beaucoup.
Alors, tant que j'ai le micro, je me permets de poser aussi une question à Camille. Merci beaucoup pour ce exposé extrêmement clair. Tu mets des mots sur des choses qu'on sent, qu'on voit à plein d'endroits, mais qui là, pour le coup, a une espèce de rigueur de démonstration et d'éléments précis. Et je me demandais donc sur ce constat qu'en fait, c'est sur des structures et sur une dimension de collectivisation de cette responsabilité de la santé qu'il faudrait agir. Est-ce que vous avez été témoin de certaines initiatives qui vont dans ce sens-là, que ce soit dans des écoles ou ailleurs, parce que effectivement, ça confronte à la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Une fois qu'on sait que la douleur, c'est pas possible, qu'on sent combien le travail perceptif et l'analyse et la connexion à soi-même et le temps de récupération sont les clés, mais qu'on n'arrive pas, en termes de conditions de travail et de atteindre ça, est-ce que vous voyez des pistes? Est-ce que vous avez des observations?
Alors, on m'entend comme ça? Oui. Malheureusement ou heureusement, quelque part, je pense d'une part, il y a la question de la temporalité. Par exemple, cette école de danse, j'ai pu y retourner sur un temps quand même très très long. Au fur et à mesure, même pour la question de la pédagogie en studio, il y a eu une modification aussi du travail. Parce que là, il y a la question aussi des professeurs, comme ils sont employés en CDI, faut attendre qu'ils partent aussi pour avoir du coup des nouveaux enseignants qui, eux, sont issus d'une autre génération où il y a plus ce regard-là qui permet une modification, mais qui reste un peu qui reste quand même importante au sens où ça arme aussi certains danseurs à dire non. Voilà, il y a aussi toute l'histoire du droit, leur apprendre le droit, et le CND fait beaucoup d'ailleurs pour apprendre le droit aux élèves dans les écoles, pour avoir ce respect des conventions collectives. Après, il y a certaines compagnies aussi qui font des initiatives plus individuelles. Je pense par exemple à Mélanie Perrier qui met vraiment aussi tout un accent sur la SND, sur cette sur éviter la réification du corps. Mais voilà, mais le problème, c'est que c'est aussi dans certaines formes esthétiques, on va dire, parce qu'il y a d'autres... c'est comme si c'était des chorégraphes à plusieurs vitesses, liés aussi à l'urgence parfois de créer, mais par rapport à ces questions de budget actuel. Mais je pense que déjà, une des pistes, ça serait tout bêtement, en fait, le respect des conventions collectives, où voilà, on commence à un certain horaire, on finit à un certain horaire, ce qui laisse le temps à la récupération. Ça va, c'est quelque chose qui est acté dans la théorie, le droit du travail, mais moins en pratique, et qui pourrait être un levier efficace, en attendant aussi cette modification des mentalités, où un autre problème, ça reste, par exemple, des vitrines, à disons, d'excellence, qui transmettent donc des représentations qui sont antagonistes avec d'autres courants. Et ça reste une question complexe, mais par exemple, quelque chose d'assez efficace, je pense, ça, c'était le droit, déjà, puis quelque chose...
Juste, tu me permets de rebondir, l'idée que les mentalités évoluent vers plus de soins, me semble discutable.
Oui, c'est ça, c'est que ça évolue pas vers plus de soins, ça évolue vers... On s'en réfère au médecin, ce qui est déjà très, très bien, pour danser plus longtemps et dans l'entérination, enfin voilà, dans l'acceptation de ces normes délétères. Et c'est ça tout le problème de cette apparition de l'accompagnement médical où il y a une forme d'ambivalence. C'est-à-dire ça permet vraiment aux danseurs de « Ah ben tiens, je vais voir mon médecin, la douleur n'est pas normale ». Sauf que ce processus-là, il existe depuis les années 90 dans le monde anglo-saxon. Ça va, il y a toute une partie de ma thèse là-dessus. Et on arrive à la même conclusion, c'est-à-dire depuis les années 90, nous sommes en 2025, les danseurs se baissent toujours autant. Ce sont les mêmes taux de blessures, vu que la littérature vient essentiellement du monde anglo-saxon, où à chaque fois, il y a l'idée de « il faut interroger les conditions structurelles et réformer ces conditions structurelles ». C'est-à-dire que l'accompagnement médical qui est en cours dans le monde de la danse, finalement, si on ne va que vers ce modèle-là, qui est de plus en plus valorisé, on passe à côté du vrai problème, vu que ça a déjà été fait et ça ne marche pas plus. Et c'est pour ça que j'ai fait une mention de par exemple, d'autres courants et la question du studio où je pensais à la SND ou tous ces courants des années 60-70. C'est qu'en France aussi, voilà, il y a eu toute des réflexions pédagogiques de comment on modifie aussi dans le studio où le vrai, pour moi, le nœud qui est même une question ontologique de qu'est-ce que la danse finalement. C'est-à-dire, c'est moins une réification peut-être que le sens du geste et où est-ce qu'on se place parce que ce qui crée vraiment blessure, c'est cette déconnexion entre la sensation et le geste. Donc comment on retrouve cela? Et ça, je pense, ça dépasse même le cadre de la santé. C'est vraiment une question de qu'est-ce que la danse? Qu'est-ce qu'être danseur? Qu'est-ce qu'on veut aussi nous en tant que public? Qui est-ce qu'on va acclamer? Et c'est des questions plus globales où je trouve ça très intéressant selon ce genre de projet parce que ça permet de mettre ensemble et de réfléchir en commun à tout cela.
C'est Camille. Ça me fait penser à Odile Rouquet, qui était prof d'Afghanistan et qui, en fait, demandait d'assister au cours. Enfin, avec les profs qui voulaient bien, elle était à côté d'eux pendant le cours. Et ça, je pense, ça a dû faire avancer les choses. Oui. Parce que c'est vraiment cette question de l'intentionnalité qui est posée à ce moment-là. Et donc, le professeur doit jouer avec. C'est une question.
Complètement. Et ben, justement, dans cette école de danse, mais dans d'autres, il y a vraiment... parfois, voilà, une personne externe, donc liée au pôle santé, assiste au cours et les professeurs ont tendance à modifier presque leur pratique. Et moi, par exemple, dans l'école où j'ai observé, ils ont eu du mal au début à comprendre qui j'étais. Voilà, ils ne comprenaient pas trop, donc ils me posaient des questions sur l'anatomie. Ce n'est pas mon registre, mais le problème vient dès qu'il y a un spectacle ou un examen, que là, cette conscience du geste qui est vraiment posée à « tu fais attention, faites attention à cette sensation », ça, c'est complètement oublié au final quand le spectacle arrive, l'audition arrive.
Voilà, bon, c'est le problème.
Et tant que je suis à côté de toi, est-ce que c'est là où ils se blessent le plus? Enfin, ça a été remarqué, ça, ou pas?
Oui, on n'a pas pu faire de... Enfin, déjà, il y a la question de l'accès aux dossiers médicaux. Justement, dans cette structure, il y a une idée de faire... les blessures, elle me dit, tous les arrêts, elle, c'est après le spectacle, en fait. C'est-à-dire qu'ils tiennent, ils tiennent. Et il y a aussi cet enjeu de, par exemple, par rapport aux élèves, il y en avait qui n'étaient pas forcément aptes à danser à ce moment-là, mais il y a eu des... On est face à des adolescents, quand même. Il y a eu, par exemple, un chantage au suicide, alors qu'il était... Si la personne ne dansait pas, par exemple... parce qu'elle ne voulait pas monter sur pointe. Et là, il y a eu tout un travail, par exemple, fait avec l'élève d'abord et avec les professeurs pour aménager complètement ce que la personne devait faire pour qu'elle puisse quand même être sur scène et être arrêtée après. Mais il y a aussi, par exemple, la présence de cette coordinatrice santé au spectacle. Il y a des élèves qui ne sont pas tout à fait aptes, mais ils veulent tellement que, disons qu'eux-mêmes, finalement, le corps médical qui est parfois dans une forme de critique des conditions structurelles, ça aussi qu'il faut, là, ils doivent s'y plier, sinon l'élève va être complètement cassé, en fait.
Ouais.
Je sais si ça
répond. Si, ça répond. Ouais. Oui, justement, vis-à-vis de la santé mentale des. Merci déjà, pardon, pour vos deux interventions. Et par rapport à la santé mentale des danseurs et danseuses. Qu'est-ce qui est déjà mis en place? Est-ce que, par exemple, les structures de santé prennent en compte la santé mentale? Maintenant, on parle de chantage de suicide, ça paraît.
Il y a une psychologue, justement, dans cette structure, il y a une psychologue. Mais malheureusement, la santé mentale reste un impensé. Enfin, même s'il y a quand même des conférences, il y a des choses qui sont dites, de s'en référer. Il y a certaines structures aussi qui mettent en place des formes de formation de premier secours à la santé mentale pour les professeurs, en leur disant qu'ils ont un rôle d'écoute, et après de s'en référer à... Voilà comment réagir, dire les paroles à dire, finalement, et comment s'en référer. Mais malheureusement, et moi, ça m'a aussi beaucoup touchée, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des jeunes danseurs, de pas si jeunes, hein, jusqu'à 21 ans, et ce qu'ils me disent, c'est leur détresse au final, parce qu'il y a aussi leur famille, c'est-à-dire les soutiennent au début, moins pour la carrière de danseur en vrai que pour le prestige des différentes institutions. Et au début, quand l'élève va dire « Ah ben j'ai un peu mal », ils disent « Ah ben c'est pas grave, c'est le métier qui rentre ». Et s'il y a de grosses blessures, là les parents disent en général « Alors tu arrêtes ». Et pour eux, c'est dramatique, parce qu'ils ne veulent pas arrêter. Et là, ils font part de leur désarroi. Ils me disent, on a l'habitude d'avoir mal. Je dis, c'est pas normal qu'on ait mal physiquement. Je dis, mais nous, ce qui est terrible, c'est qu'on est désespéré, en fait. Et il y a aussi la question de la prise en charge psychologique purement financière, en vrai, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de consulter les psychologues. Et parfois, même si dans la structure santé, c'est bien dit, le psychologue, par exemple, est en dehors, il y a cette peur de peut-être ça va rejaillir. Auprès des professeurs ou dans les compagnies, et ça reste, je crois, le gros point vraiment encore presque occulte sur lequel se pencher, parce que c'est, on a peu de chiffres, mais c'est quand même assez effarant, je pense.
Non, peut-être, juste en plus, bon, c'est une micro-expérience, mais c'est plus récent dans le CRN, je sors d'apparemment de chômage de Paris, ça vient, l'un est tout en place cette année, il y a double permanence. Donc, kiné, lui aussi, psychologue. Donc, c'est vraiment des petites choses, hein, mais peut baisser un tout petit peu, espérer que quand même, c'est des problématiques qui, petit à petit, entre la polaire qui est Alexis sur le CRN, c'est là. Des choses à...
Je le mets en avant aussi parce que vraiment des soubresauts en deux ans, ça porte de l'idée à d'autres de le...
Oui, parce que rien que d'ailleurs le fait que ça existe dans les structures, les élèves n'y vont pas forcément, mais ça normalise le fait que on en a besoin, en fait. Et ça, en vrai, c'est énorme. Mais ça veut dire que c'est normal, en fait. Malheureusement, d'ailleurs, c'est normal le fait de peut-être pas aller bien. Et donc, de se faire aider, de se faire accompagner. Et ce que j'avais bien aimé, justement, par rapport à ces cours de santé mentale, en fait, de comment accompagner, c'est l'idée de ne pas dire « tu as besoin d'aller voir un psychologue », par exemple, mais c'est l'idée que ça existe et que c'est vraiment... Il mérite, en fait. Le danseur mérite vraiment d'aller bien, en fait, et donc il mérite d'avoir cet accompagnement, non pas comme forme de récompense, mais je veux dire pour qu'il y ait un côté amélioratif de « tu es quelqu'un de bien, ce que tu traverses est normal, tu es un bon danseur », et ça... C'est aussi un outillage.
Ouais.
Voilà, une dernière question.
Bonjour, Aurélie Vang, je suis directrice pédagogique de l'école de cirque de Toulouse. Et je suis très intéressée par cette approche à la fois par la physiologie et par la sociologie de la question de la santé et d'accompagnement à la santé des jeunes étudiants. Et nous, dans l'école de cirque, on est aussi un endroit de réflexion sur la question de l'accompagnement de la santé. Moi, je voulais juste témoigner un peu de faire un parallèle avec ce qui se passe dans les écoles de cirque et le fait que lors de la mise en place des écoles de cirque dans le milieu des années 80, l'enseignement, je vais dire physique, était comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'artistes professionnels issus du cirque, du nouveau cirque. Les enseignements étaient faits par des gens qui venaient soit du cirque traditionnel des pays de l'Est, soit de l'enseignement de la gymnastique, et que dans les écoles de cirque, il y avait cette confrontation forte entre, parce que le cirque est quand même un art bâtard qui mêle à la fois une approche par le théâtre, la danse et par l'approche physique, et donc il y avait une forme de cohabitation ou de confrontation entre cette approche par une pédagogie un peu classique avec une exaltation des corps et puis cette approche à la fois par une approche scénique qui était sans doute plus qui était une approche un peu différente. Donc il y a eu dans les écoles de cirque cette espèce de confrontation cohabitation entre les deux liens qui fait que sans doute la pédagogie du cirque n'est pas du tout la même que dans les écoles de danse, mais qu'il y a des endroits de comparaison. Et effectivement, on est actuellement un changement générationnel avec des gens issus du cirque contemporain qui ont une autre approche que celle-là. J'essaie de ne pas être trop caricatural en étant raffine, hein, mais qu'en tout cas, ça m'a beaucoup questionné sur ces questions de rapport au corps, d'image au corps et de construction commune d'une image du corps qui a une influence sur les exigences, la vision qu'on peut laisser les étudiants voir d'eux-mêmes et de leur corps. Je trouve très, très intéressant, très émouvant. Je m'excuse d'avoir été un peu longue. Et la question que je me poserai, c'est quel est votre champ de recherche actuel et quel prolongement vous avez actuellement dans vos recherches, ce que vous avez déjà pu, à partir de ce que vous avez déjà pu observer.
Alors actuellement, j'ai fait ce qu'on pourrait voir en apparence comme un détour. Absolument, je suis en post-doctorat en santé publique. Parce que je trouvais ça intéressant de... Enfin, pour moi, il y a aussi une logique de santé publique, en fait, derrière ces cas des danseurs, de toute une population, de tout un groupe professionnel, finalement, qui se retrouve dans une forme de souffrance, en fait, qu'elle soit physique ou psychologique. Et donc voilà, donc là, je travaille actuellement jusqu'en septembre en santé publique et je poursuis en parallèle cette recherche, parce qu'on dit, c'est un monde qui change vite aussi, il y a beaucoup de mutations et qui vont dans un sens qu'on ne sait pas exactement finalement quelle direction ça va prendre. Et voilà, et moi là, je suis toujours aussi en contact avec par exemple les anciens élèves pour voir aussi eux-mêmes comment ça se passe dans leur compagnie, avec ce qu'on leur a appris, s'ils peuvent le mettre en pratique ou pas du tout. Donc pour moi, il y a aussi cet enjeu de continuer à documenter en prévision, j'espère, d'un ouvrage. La suite de ces élèves que j'ai eu la chance de suivre pendant pas mal d'années et voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place, quelle est leur vision au final et comment ça se découle dans les différentes structures dans lesquelles ils sont ou ceux qui ont arrêté d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup aussi.
Bernard, dernière question, mais vraiment la toute dernière. Pardon, c'est moi qui conclue. J'ai besoin de cash, vite.
Alors, c'était pour... Merci pour vous être prêts, mais c'est aussi pour souligner le lien avec le numérique. Je dis ça parce que tu as des gens qui sont dans le numérique, dans la salle aussi. Et je pense que ce que tu as présenté, c'est aussi très intéressant pour montrer justement que voilà, dans notre domaine, on peut aussi aborder ces questions-là. Et même si tu aimerais que budget, tu fais quand même beaucoup de choses impressionnantes. Et voilà, je pense que c'était bien aussi de pouvoir présenter ça et voilà, aussi pour souligner ça.
Merci Bernard. J'aimerais juste rajouter une dernière chose qui est une entrée peut-être pour cet après-midi en une phrase, mais j'enseigne en formation d'artiste équestre
qui est une formation qui est en train de disparaître. Donc, ce n'est pas se reformer, mais se réformer. Et oui, on peut aussi souligner la souffrance des jeunes aspirants artistes de cirque équestre qui sont en train de disparaître, alors qu'il peut y avoir aussi des enseignants-chercheurs qui travaillent, je ne suis pas la seule, sur des nouvelles formes, des nouvelles approches pour reformer ou transformer ou déformer ou je ne sais quoi former la génération de demain avec l'animal sur scène, parce que je suis persuadée que si nous, on ne le fait pas, ben, on mangera du jambon fleurimichon veggie et que c'est le rôle de l'art, en fait, de penser ça et du vivant encore plus. Donc, voilà.
Magnifique mot de fin.
Toi deux.
Merci. Salut.
Je vous invite à une petite pause et je vous propose